Saul Williams. Camille.
Ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos.
Et le duo Nerman Kouyaté.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain, à partir de 18h, devant la porte B de la maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter,
la différence.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, c'est maintenant.
Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'elle est vache l'Europe, c'est une grosse vache, la Banque Européenne c'est une grosse vache, mais de quoi qu'elle se mêle de s'occuper de nos retraites et de notre code du travail? Qui c'est qui prend nos sous aussi, hein? Qui c'est qui a augmenté nos coûts de téléphone et tout ça? C'est bien à cause de l'Europe, on n'a rien demandé, nous, on n'a même pas eu le droit de revoter pour leur dire qu'on en a marre, hein, puis que leur saucisse de Francfort, qu'ils se la foutent, oh, je pense. Oh, je parle poliment, merci. Au revoir, Daniel.
La BCE a de facto un rôle incitateur, mais non intrusif ni coercitif. Partant de ces postulats qui impactent les décisions des décideurs, il est possible de dégager, in fine, la juste valeur intrinsèque de pays comme la Grèce, le Portugal ou l'Irlande. Bah, c'est que chi. Pas de vulgarité entre nous. Ou là, de l'emberlificotage des rapports qui parsèment les bureaux de la BCE. Et si M. Trichet portait bien son nom, lui qui, il n'y a pas si longtemps, accusait les non-banques, sic, de tous nos malheurs. En voilà de l'analyse, ma bonne dame. C'est Noël de Nantes.
Salut Daniel, salut les AMG, c'est Kevin de Paris. Bon, je vous appelais pour vous remercier pour l'émission, pour vous raconter ce que c'était aussi la libéralisation des services. Donc je suis parisien, pour la troisième fois en un an et demi, on doit m'envoyer un colis de province, hein, par la poste, ce qui a été fait la semaine dernière. Le colis n'arrive jamais, donc vous allez à la poste, vous n'avez même pas de papier, hein. Le colis n'arrive pas, vous allez à la poste, et on vous dit, ben, vous n'étiez pas chez vous. C'est faux en l'occurrence, puisque j'ai eu la chance d'être chez moi assez souvent. Vous n'étiez pas chez vous. Et de toute façon, il ne laisse aucun papier dans la boîte aux lettres. Et en creusant un petit peu, ce que j'avais déjà compris il y a quelques mois, c'est qu'en fait, du fait de la libéralisation des services, c'est plus la poste qui livre, c'est une société privée sous-traitante. Et comme ils ne sont pas assermentés, ils n'ont pas le droit d'avoir le code d'accès à l'immeuble. Et donc, vous êtes dosé, vous ne pouvez jamais accéder à votre. Ils ne peuvent pas accéder à vos boîtes aux lettres pour vous mettre un avis de passage, et ils peuvent encore moins sonner pour vous dire de réceptionner le colis. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là, mais enfin c'est aussi ça la réjouissance de la libéralisation des services. Donc c'est bientôt fini, j'espère, les élections bientôt, j'y crois moyennement, mais bon. Allez, salut.
Bonjour Fred d'Aubagne, j'écoute la radio, là, le 7-9. J'ai une question, là, c'est qui définit ce monsieur Wüthner comme un intellectuel? Toutes les phrases qu'il dit sont des absurdités, il s'écoute, il n'y a aucun raisonnement, il n'y a que d'une espèce de dénonciation à deux balles. Je ne suis pas forcément écolo, mais il traite d'égoïsme et d'individualisme le fait de faire attention à une gestion collective justement de l'énergie, de l'eau. C'est un ramassis de bêtises qu'il dit cet homme-là, et on le qualifie d'intellectuel, mais qui le qualifie d'intellectuel? Enfin, je suis affligé, encore une fois, de tant de bêtises des gens qui ont la parole. Voilà, merci beaucoup et bonjour à tous quand même.
Oui, bonjour Daniel Mermet et toute l'équipe. Ici, c'est les postiers de Thonon-les-Bains, Douvaine, Évian-les-Bains. On est en grève depuis hier par rapport au démantèlement du service public, les réorganisations qui se succèdent avec suppression de postes et tout. Donc, voilà, on aimerait avoir du soutien, que tout le monde soit mis au courant, que ça passe sur l'antenne si possible aujourd'hui, pour faire face à la direction qui respecte ni le droit du travail, ni le droit de grève, ni quoi que ce soit.
Suite à l'émission là, sur la Banque Centrale Européenne, la première partie, j'apprends en fin d'émission que M. Jean-Claude Trichet aura l'honneur, après avoir rencontré Denis Robert, de rencontrer François Ruffin. Et ben, effectivement, le pauvre M. Trichet, il n'a vraiment pas de chance. Hein. Enfin, voilà, super. Ça fait une raison de plus de se réjouir à l'idée d'écouter l'émission d'aujourd'hui. Allez, Au revoir et à plus. C'était Ludovic du Nord-Alsace.
Non, la rencontre avec M. Trichet, c'est pas aujourd'hui, c'est demain probablement, puisqu'on continue notre série sur la Banque Centrale Européenne, qu'on a commencé hier. Depuis hier, nous sommes à Francfort. De temps en temps, on vient faire un petit tour à Strasbourg. Et qu'est-ce qu'on fait à Francfort? Eh bien, on visite cette... Banque Centrale Européenne, on essaye de voir comment ça marche, cette Banque Centrale Européenne. Et l'on découvre, on a découvert hier, pour ceux qui en doutaient encore, de la puissance et de l'influence considérable de cette Banque Centrale Européenne. Influence sur quoi ? Sur l'économie, oui, sur la finance, bien évidemment, puisque c'est son boulot. Mais aussi, tout simplement, sur la politique, sur le politique, sur les politiques conduites par les gouvernements européens. On a l'impression qu'il y a une main invisible qui conduit ces politiques. Et bien la main invisible, elle n'est pas du tout invisible, elle est là, elle est bel et bien là. Elle est, et effectivement, elle est assez souvent celle de M. Trichet, qui bien sûr n'est pas seul, mais qui incarne et bien des idées, une façon de voir les choses, ce qu'on appelle tout simplement une idéologie, sauf que personne n'a voté pour la Banque Centrale Européenne. C'est en dehors de la démocratie et du système électoral. C'est ce que les indignés espagnols, catalans, en tout cas sur la place de Catalogne, avaient très nettement indiqué en disant « Nous n'avons pas voté pour les banquiers ». Eh bien là, c'est la banque des banques, on peut dire, que cette Banque Centrale Européenne et qui influence et qui dirige et qui assigne et qui fait pression, surtout depuis la récente crise de la dette qui constitue pour la direction de cette Banque Centrale Européenne une véritable aubaine pour imposer un certain nombre d'ordonnances, on pourrait dire, sur les politiques. C'est ce qu'on a découvert ça hier, enfin on l'a vu hier très clairement avec le reportage de François Ruffin, la première partie, avec ses députés européens, un Italien, un Portugais et un Irlandais. L'Irlandais et le Portugais appartiennent à la gauche européenne et l'Italien à un centre libéral plutôt, mais tous trois s'étonnaient, s'indignaient et s'alarmaient de la toute-puissance de cette banque sur, sur la politique et donc sur nos vies quotidiennes. Voilà, c'est notre suite aujourd'hui, deuxième volet. On part avec une petite phrase, Henry Ford, l'inventeur de Ford, qui disait « C'est une chance que les gens ne comprennent pas notre système bancaire, car si tel était le cas, il y aurait une révolution demain matin ». D'ici là, donc, on est à Francfort. Francfort, capitale du capital. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale. Au 01 56 40 37 37.
Mon père est mort il y a un an tout juste. Mais cela faisait presque 10 ans qu'il souffrait. Pas d'une maladie, non. D'être mal au travail. De mutations multiples en baisse de salaire, d'objectifs inaccessibles, en humiliation... L'entreprise ne voulait pas le licencier car 30 ans de bons et loyaux services, cela coûte trop cher en indemnité. Alors ils l'ont épuisé. Son cœur a lâché. Trop de stress et de fatigue nerveuse. Nous l'avons perdu, mais l'entreprise a gagné. Belle morale. Bonne journée quand même.
Un bonjour des betteraves du Gâtinais français aux AMG. Le repère de là-bas si j'y suis de Toussaint, habituellement au café du village, la tête des trains va exceptionnellement se déplacer d'une dizaine de kilomètres dans le village voisin de Villiers-sous-Grès, dans la salle du foyer rural Jean-Louis Garbon, pour faire sa rentrée. Mais après, on revient à Toussaint dans nos murs. Le déplacement vaut le coup, car nous allons papoter sur les méchantes ondes maléfiques, les téléphones portables, le Wi-Fi, les antennes relais, bref, des vrais dangers pour la santé qui ne sont pas toujours très connus. Alors, pour commencer, on passera le film « Mauvaises ondes » de Sophie Le Gall, puis on débattra avec les Robins des Toits, des spécialistes des nouvelles technologies sans fil. C'est donc ce vendredi 7 octobre à 20h30, à Villiers-sous-Grès, c'est derrière l'église, et c'est dans le sud de la Seine-et-Marne. Voilà, venez nombreux pour cette rentrée, et ensuite on se retrouvera toujours à Toussaint, comme d'habitude. Salut.
Avis à la population des AMG. Mercredi 5 octobre à 19h30 au Salin de Villeneuve-les-Maglones près de Montpellier, l'association Avis de Chantier vous propose, au cours des Palabrasives, une soirée sur le thème « De la crise financière à la décroissance, quelle transition ?» Lecture jouée de la pièce de Frédéric Lordon, « D'un retournement à l'autre ». Qu'on se le dise.
Au repère de la Bassigy-Suye à Bègles, près de Bordeaux, nous avons compris depuis longtemps que notre richesse ne vient pas du transfert de valises. Si je donne mon vélo, je n'ai plus de vélo. Mais si je transmets mon savoir, mon expérience, ce savoir, je le donne aux autres qui peuvent le transmettre à d'autres encore, sans jamais en être dépossédés. Le repère de la Bassigy-Suye aura lieu mercredi 5 octobre à partir de 19h au bar Le Poulailler, place du 14 juillet à Bègles. Nous regarderons le film de Sophie Bolz, Marina Leda, Un village en utopie, et nous verrons ce que ces gens ont à nous apprendre de 30 ans de lutte tenace. Pour mémoire, le reportage de Daniel et son équipe a été diffusé le 7 juin 2011. Venez nombreux, on vous attend au Poulailler. À bientôt, au revoir.
Bon ben, Daniel, ce soir, tout seul dans la chambre d'hôtel, là, avec la connexion Wi-Fi, je mène petite expérience, une enquête Google, on pourrait appeler ça. Je viens de taper « tricher plus salaire ». Et sur les 10 premières pages, soit sur les 100 premiers résultats, j'ai triché contre l'augmentation des salaires. Pour tricher, augmenter les salaires est la dernière bêtise à faire. En Belgique, tricher tacle l'indexation automatique des salaires belges. Et ça sur des pages et des pages. Quand je tape tricher plus retraite, j'ai en France, tricher approuve la réforme des retraites. En Italie, tricher presse Rome de tenir ses engagements, dont repousser l'âge de la retraite. Quand je tape « tricher plus marché du travail », j'ai « souplesse, flexibilité, réforme ». Là encore, il y en a des pages et des pages. Même, il justifie presque les revenus des traders. Et enfin, évidemment, la BCE se déclare contre la taxe sur les transactions financières. Là, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Sur les retraites, le marché du travail, il met la pression à fond. Tandis que sur les bonus, les dividendes, les transactions financières, il y va pour le moins très 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 mollo.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base et j'y suis avec François Ruffin, Francfort, capitale du capital.
And we're just breaking into U.S. programming now because this is, of course, a rate decision day. A lot of focus on the European Central Bank. Jean-Claude Trichet, the head of the European Central Bank. Let's listen in to Mr. Trichet and hear what he has to say.
The President and I are very pleased to welcome you to our press conference. We will report on the outcome of today's meeting of the Governing Council, which was also attended by Commissioner Rehn.
Ce que tu entends là derrière moi, Daniel, c'est la conférence de presse de Jean-Claude Trichet. Bon voilà, tu t'en rends pas compte, mais en direct de leur retour, là, tu es en train de vivre un moment émouvant. La dernière conférence de presse à Francfort de Jean-Claude Trichet. Je sais que ton petit cœur palpite d'émotion, Daniel. Mais c'est rien à côté des marchés. Les marchés financiers, eux, retiennent carrément leur souffle. Pendant toute cette heure de la passie, j'y suis, ils se demandent que va déclarer Jean-Claude Trichet, le grand argentier de l'Europe. Bon, comme je comprends pas tout à son langage financier, comme en plus en anglais, je suis accompagné là, à mes côtés, du député vert Pascal Canfin. Comme c'est un ancien journaliste à Alternative Économique, comme il est vice-président de la commission crise au Parlement de Strasbourg, il va m'aider à décrypter ce discours pour que tu puisses, pour que vous puissiez tous pleinement vivre ce moment avec suspense, avec émotion, avec tendresse, sans déconner là, pour que on comprenne bien que c'est de la politique qui se fait ici, que c'est peut-être même plus important, même s'il n'y a pas 500 journalistes, même s'il n'y a personne de TF1, personne de France 2, personne de Libération, personne de France Inter, que c'est sans doute plus important ce qui se raconte ici que, je disais, une énième intervention de Sarkozy. Parce que c'est ici, à la Banque Centrale Européenne, à Francfort, avec Jean-Claude Trichet, que se dessinent les grandes orientations pour les Grecs, les Italiens, les Portugais, les Français.
Ah, nous y voilà au cœur du problème, au centre du moteur, Banque Centrale Européenne. Et vous avez vu Monsieur Trichet qui parle, et chaque mot, chaque intonation de Monsieur Trichet a des répercussions énormes, énormes, bien au-delà de l'Europe même. On scrute, on observe, et immédiatement, il y a des logiciels spéciaux qui interprètent ce qu'il dit, et immédiatement, cela a des conséquences sur la finance, sur l'économie, sur la politique et par ruissellement sur la vie quotidienne. C'est exactement ce qui se passait il y a fort longtemps lorsque les anciens dans l'Antiquité examinaient les auspices, c'est-à-dire le vol des oiseaux, ou bien encore les aruspices, c'est-à-dire la contemplation des tripes et des restes des taureaux ou des animaux. Et d'après la disposition, d'après ce qu'on pouvait voir, eh bien, on en tirait des conclusions parfois très importantes sur les décisions politiques, sociales et voire même guerrières. Eh bien, c'est assez ça qui se passe finalement, essentiellement, dans cette Banque Centrale Européenne. Hier, on a découvert, pour ceux qui l'ignoraient, l'influence, on peut vraiment parler d'influence de cette institution qui est liée, vous le savez bien, à l'Europe et à l'euro. On a découvert, mais il se pourrait bien que les Français n'aient pas, et pas seulement les Français, les Européens plus largement, et peut-être pas que les Européens, n'aient pas attendu de connaître le langage de la finance, le jargon de la finance, ni l'arithmétique et la mathématique de la finance pour comprendre ce qui se passe dans leur vie quotidienne. Ils ont compris que cette économie financiarisée, qui s'est peu à peu financiarisée depuis une trentaine d'années, eh bien c'est pas bon, voilà, c'est pas bon pour les salaires, c'est pas bon pour la vie quotidienne, c'est pas bon pour le pouvoir d'achat, c'est pas bon, et voilà un point, c'est tout. Et il y a une prise de conscience de plus en plus évidente, de plus en plus générale, et qui n'est ni de gauche ni de droite, qu'on trouve aussi bien à gauche qu'à droite. C'est important de prendre tout cela en considération, mais c'est très important de savoir où ça se passe, d'où ça vient et comment fonctionne cette Banque Centrale Européenne. C'est notre thème jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Ils ont besoin de...
Beaucoup de gens ne parlent que d'argent, car ceux qui en ont oublient qu'ils en ont. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en voient pas la couleur. La personne qui donne est bonne, mais pour l'État est plus et pour une conne. Car ceux qui donnent n'ont souvent pas grand chose sur leur compte, et lors du décompte se retrouvent sur la paille. Aïe, un paillasson, un convivon à réclamer des ronds. Où se trouve la solution pour sortir de la persécution monétaire monotone? Tu donnes et sonnes l'huissier à ta porte pour te déposséder de tes biens au prix d'achat les plus bas. Il faut régler toutes ces consommations dans toutes les situations. Enfin, les bons comptes, les bons amis, mon ami, mais un compte bien rempli te suffit aussi. Monnaie monétaire monotone donne sonne, ce sont les comptes du 20e siècle. Monnaie monétaire monotone donne sonne, ce sont les comptes
et la monnaie.
Là, Pascal Campin, on arrive sur la place de l'Euro Tower avec l'immense sigle Euro et ses 12 étoiles devant l'Euro Tower. Vous êtes député européen, député vert, Europe Écologie et Vert. Vous êtes vice-président de la commission spéciale crise financière au Parlement de Strasbourg. C'est la première fois que vous venez ici ?
Non, c'est pas la première fois, puisque on a des discussions régulières en tant que député européen avec la Banque centrale. Il n'y a pas de contrôle démocratique. Finalement, la BCE était indépendante parce que son mandat était limité. Son mandat était simplement, c'est déjà beaucoup, mais c'était de contrôler l'inflation. À partir du moment où, depuis la crise financière de 2008, elle a un rôle beaucoup plus important, puisque c'est en partie elle qui a sauvé les banques. C'est aujourd'hui elle qui, en rachetant des obligations d'État de l'Italie ou de l'Espagne, contribue à sauver les États, en quelque sorte. On ne peut pas imaginer que ce genre de décision totalement stratégique et déterminante soit prise dans le huis clos de 8 personnes. Et donc, on a un problème d'asymétrie entre un pouvoir de plus en plus important de la Banque centrale et des statuts qui maintiennent une absence de responsabilité démocratique.
Ce qui m'a fait venir ici, en fait, au tout départ, c'est un article paru dans le Figaro, qui disait la BCE met de facto l'Italie sous tutelle, et où on apprenait que Mario Draghi, le futur président de la BCE, et Jean-Claude Trichet, l'actuel président de la BCE, avaient adressé une lettre à Silvio Berlusconi. Alors on voit Silvio Berlusconi sur la photo complètement abattu, les yeux fermés devant le drapeau européen. Et dans cette lettre, que disaient Mario Draghi et Jean-Claude Trichet qu'il fallait procéder à des privatisations, et en citant concrètement de quoi il s'agissait, à savoir les sociétés municipales de transport public, de fourniture d'électricité, qu'il fallait aussi rendre plus flexibles les procédures de licenciement, comme le réclamait d'ailleurs le patron de Fiat en Italie, rendre plus souple le code du travail. Et tout ça, non seulement Jean-Claude Trichet et Mario Draghi énonçaient ce calendrier politique, mais en plus, ils disaient comment ça devait se décider. Ça ne devait pas se décider en passant au Parlement italien à Rome, parce que ça prend trop de temps. Il fallait que ça se fasse par décret pour être plus rapide. Sans lisant cet article, je me suis dit, mais bon sang, c'est comme si le vrai pouvoir monétaire, c'était déjà le cas, mais le vrai pouvoir économique aussi, voire le pouvoir social, là, c'est comme si c'était un ministère des Affaires sociales, s'était déplacé de Rome, de Paris, de Lisbonne, de Dublin, ici, derrière nous, au siège de la Banque centrale à Francfort.
Le problème, c'est que on demande à la BCE d'intervenir pour acheter des obligations des États. Et qu'elle le fait avec des contreparties. Les contreparties que vous venez de mentionner, qui sont grosso modo les contreparties standards des programmes d'ajustement structurel du FMI d'il y a 20 ans, le programme néolibéral classique, qui a largement échoué, mais qui est le dogme qui est en vigueur ici.
Ce que le FMI a fait pour les pays d'Amérique latine dans les années 80, la BCE le met en œuvre aujourd'hui en Europe.
Très clairement, quand on voit l'agenda de réforme qui est suggéré, voire imposé par la BCE et la Commission européenne, on est sur un agenda ultra classique de réforme néolibérale. Il n'y a pas un iota qui a bougé. Mais ce qui est particulièrement choquant, en plus de ça, c'est que quand le même Jean-Claude Trichet prête aux banques à très bas prix, et sans limite. Et moi, j'attends toujours la lettre de Jean-Claude Trichet au patron des grandes banques européennes, comme il l'a fait pour Berlusconi, qui dirait, je vous prête cet argent parce que je n'ai pas le choix, parce qu'il faut assurer la liquidité dans le système, mais en revanche, vous retirez des paradis fiscaux, vous assurez la transparence des comptes, vous arrêtez de spéculer sur les dettes souveraines, vous financez l'économie réelle et pas des produits toxiques dans les marchés financiers. Cet agenda-là, là, il est totalement absent. Quand la BCE aide les États, il y a des conditions très fortes. Quand la BCE aide les banques, il y a zéro condition.
Voilà qui est assez clair dans la bouche donc de Pascal Canfin, je rappelle, député européen du groupe Europe Écologie des Verts, vice-président de la commission crise au Parlement européen et qui est un ancien journaliste d'alternatives économiques. Alors, on est à la on est à la Banque Centrale Européenne et on visite quand même, il faut voir les choses physiquement. Là, il y a quelque chose de tangible. C'est pas toujours facile de comprendre tout ça parce que c'est immatériel, parce que c'est dans un langage, je parle de la finance, dans un langage très, dans un jargon qui est étranger, difficile à la plupart d'entre nous. On est des analphabètes de la finance pour la plupart. Mais enfin, là, il y a quand même quelque chose de physique. Il y a un building, il y a des bureaux et il y a des gens. Il y a monsieur Mercier qui nous fait visiter, monsieur Paul Mercier, conseiller principal aux opérations de marché à la BCE, qui nous guide dans ce building.
Alors monsieur Mercier, on est dans les couloirs de la Banque Centrale Européenne,
oui,
à Francfort. Vous êtes conseiller principal pour les opérations de marché.
Oui. Alors attention, la porte va s'ouvrir, vous ne le receviez pas dans la figure. Alors là, on rentre dans notre salle de marché. Alors il y a deux grandes parties. Il y a une partie où les gens procèdent à des analyses, ils vont essayer de comprendre ce dont les banques ont besoin, donc quelle quantité de crédit on devrait accorder aux banques. Et puis l'autre partie de la salle, ce sont des gens qui s'occupent d'organiser les octrois de crédit à ces banques commerciales.
Et donc, ce sont ces personnes, donc la plupart derrière des écrans d'ordinateur, en costume cravate, des jeunes personnes d'ailleurs.
Très jeunes, oui. Oui, à part moi, le staff est très très jeune.
Et donc, ce sont ces jeunes personnes qui décident de est-ce qu'on va créer de la monnaie ?
Ce n'est pas eux qui décident, parce que de toute façon, l'organe ultime de décision, c'est le Conseil des gouverneurs. Par exemple, chaque mardi, nous avons une grosse adjudication de crédit. Les banques viennent nous demander ce qu'elles voudraient bien emprunter.
Tous les mardis, ça, alors ?
Tous les mardis.
C'est-à-dire qu'en ce moment, les banques, elles envoient des demandes, on voudrait bien avoir tant de crédit.
Oui. Et puis alors, ça remonte à notre board qui décide.
Qui décide combien on va mettre sur le marché.
Voilà. Exactement. Encore que dans les circonstances présentes, après la faillite de Lehman, nous avons décidé de permettre aux banques de déterminer elles-mêmes combien elles veulent emprunter. Mais ça fait partie des mesures un peu spéciales que nous avons dû prendre à cause de la crise financière.
Est-ce qu'on pourrait aller rencontrer je ne sais pas, qu'est-ce que c'est leur nom dans une salle de marché ? On ne dit pas trader ici ?
Non, expert de marché, market expert.
Alors, est-ce qu'il y aurait un market expert qui serait francophone ?
Oui, voilà.
Donc on est dans la salle de marché.
Yvan Fréchard est donc un de ces experts de marché.
Bonjour François. Le mardi, vous décidez de mettre sur les marchés. Mais alors ça veut dire quoi ? Vous cliquez où pour mettre sur les marchés
Alors quand on dit qu'on décide, bon, il y a d'une part la décision et d'autre part la mise en place. Ce qui est de la décision, bien sûr, c'est, ça dépend de nos dirigeants.
Vous ne pouvez pas faire comme Jérôme Carvial, vous, et décider ici à la Banque Centrale Européenne. Je mets tant de milliards de ma propre décision sur les marchés. Ça passe par Jean-Claude Trichet et le directeur de la Banque Centrale
Européenne. Absolument. Au final, ce sont eux qui décident. Bon, en ce moment, c'est simple. C'est une politique de full allotment, donc en français. On pourvoit toute la liquidité que les banques nous demandent.
Donc ça veut dire que chaque fois qu'elles demandent de l'argent, le mardi, vous dites « ok ». C'est rare que vous disiez non, négatif, négatif, négatif.
Alors, en ce moment, c'est oui, à partir du moment, encore une fois, où elles ont des titres en garantie en montant suffisant.
Bon travail.
Merci.
Oui, on l'a dit, ce qui nous avait mis la puce à l'oreille dans cette histoire, c'est un papier dans le Figaro au cours de l'été, le Figaro, qui nous informait que la BCE mettait de facto l'Italie sous tutelle et demandant des réformes à l'Italie dans tout un tas de domaines. Au hasard, je tombe sur les privatisations. La BCE cite des sociétés municipales qu'il faudra privatiser, transports publics, voiries, fourniture d'électricité, etc. Demande également de rendre plus flexibles les procédures de licenciement. C'est ce qui est un point capital. Le patron de Fiat ne cesse de dénoncer la rigidité de l'embauche et des licenciements. On voit que là, on n'est pas dans la simple neutralité apolitique avec pour seul but de retenir l'inflation et d'assurer la stabilité, la sacro-sainte stabilité. On retrouve Pascal Canfin.
Alors, il y a des hommes de la BCE, des experts de la BCE qui se déplacent pour examiner comment sont mises en place les réformes à Athènes, à Rome, à Dublin.
On pourrait imaginer aussi des experts de la Banque Centrale Européenne qui iraient examiner les comptes de la Société Générale, de BNP Paribas, de Natixis.
Normalement, oui, parce que logiquement, elle devrait être en capacité d'imposer, de proposer des mesures qui assurent la stabilité du système. Or, encore une fois, depuis 2 ans que la BCE prend des mesures exceptionnelles, elle n'est absolument pas en pointe sur l'agenda de réformes financières. Au contraire, par exemple, sur la taxe sur les transactions financières, à plusieurs reprises, Jean-Claude Trichet a dit qu'il était contre. Parce que derrière une logique qui semble technique, il y a véritablement un agenda politique qui est mené.
Et là, pour l'instant, ils n'existent pas, ces hommes de la Banque Centrale Européenne qui vont examiner les comptes de la Banque Populaire, de Natixis, de BNP Paribas, qui vont vérifier que quand BNP Paribas emprunte de l'argent auprès de la BCE, c'est bien pour prêter aux PME et pas pour créer une nouvelle bulle spéculative.
Au contraire, personne de la BCE ne vérifie l'utilisation qui est faite par les banques de l'argent qui est prêté par la BCE.
En visitant la salle des marchés, on nous dit que, grosso modo, les banques, elles ont compte ouvert à la Banque Centrale Européenne, qu'en ce moment, c'est nos limites, c'est du crédit sans limite. Donc on se dit, il doit y avoir un maximum d'argent dans l'économie, les PME, les artisans, les salaires aussi. Il doit y avoir de l'argent pour les travailleurs, pour la relance. Et pourtant, c'est l'austérité partout, alors qu'il y a de l'argent qui, depuis la Banque Centrale Européenne, depuis cette tour qu'on a à côté de nous, est déversé vers toutes les banques commerciales. Donc comment, il y a un truc que je ne comprends pas.
Justement, c'est un petit peu l'austérité généralisée, sauf pour les banques, puisque les banques ont accès à la liquidité de manière illimitée. Et la responsabilité qu'a la BCE aujourd'hui, c'est pas de fermer le robinet, c'est de faire en sorte que l'eau coule dans la bonne direction. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, ils n'ont pris aucune mesure pour s'assurer de l'efficacité de leur politique.
Donc pour s'assurer que l'argent qui est donné sans limite aux banques soit réinvesti non pas dans de nouvelles bulles spéculatives, dans des produits dérivés, dans du trading, mais soit réinvesti dans l'économie réelle, quoi. Et ça, là-dessus, il n'y a eu aucune mesure de prise.
Il n'y a aucune mesure de prise. Tous les outils utilisés jusqu'à présent ont échoué parce qu'ils se heurtent à un dogme, à un tabou, qui est la reprise d'une partie du pouvoir qui a été concédé aux banques sur la monnaie. Et aucune banque centrale, ni à Francfort, ni à Londres, ni à New York pour l'instant, n'est capable de briser ce tabou.
Alors, on se trouve dans la boutique de l'euro à Francfort, juste au pied de la Banque Centrale Européenne.
And what we have with the euro sign, for example, would be these umbrellas.
Alors, il y a le parapluie avec le signe de l'euro dessus.
mouse pads.
Alors des tapis de souris avec le signe de l'euro dessus aussi, et aussi des allumettes.
We also have these keychains.
Des porte-clés avec l'euro dessus aussi.
And yeah, lots of other stuff.
Et encore beaucoup d'autres choses. Il y a des albums pour collectionner des pièces en euros. Et à l'intérieur, on voit donc tous les. C'est marqué Maastricht, 7 février 1992. Il y a le traité de Maastricht, le livre du traité de Maastricht qui est ouvert. Il y a les grands signataires de ce traité de Maastricht qui se trouvent en dessous, Jacques Delors, Helmut Kohl pour l'Allemagne, François Mitterrand pour la France. Et là, on peut collectionner des pièces de 2 euros.
We also sell a lot of these mugs.
On vend aussi beaucoup de ces tasses avec le billet de l'euro dessus.
And also from these tissues.
Ah, il y a des mouchoirs avec le signe de l'euro dessus.
Là, vous pouvez vous moucher avec ces mouchoirs avec l'euro dessus si vous venez à Francfort, à la Banque Centrale Européenne. On continue de découverte en découverte. Je citais Le Figaro tout à l'heure, je vais le citer à nouveau. une fois n'est pas coutume, ou deux fois ne sont pas coutumes, mais quand même Le Figaro disait dans un article récent, la plupart des Grecs compare la tutelle budgétaire internationale à une nouvelle dictature après celle des colonels que le pays traversa de 67 à 74. Eh oui, dictature. Oh, on va dire, non, vous exagérez. Toujours ces comparaisons insupportables. Mais enfin, il y a quand même bien un moment où il faut que l'histoire serve à quelque chose. Voilà, on retrouve Pascal Canfin, député européen.
C'est le problème de tout ce truc-là, c'est que quand ils parlent, on comprend rien à tout ça. Les taux directeurs, les obligations, les eurobonds. C'est comme si des choix politiques, des choix sociaux vachement importants étaient déguisés derrière tout un discours où on parle au marché financier.
Quand la Banque centrale se refuse catégoriquement à envisager toute restructuration des dettes souveraines, notamment en Grèce ou en Irlande, ça revient à protéger l'intérêt de ceux qui détiennent ces obligations. Or, qui détient massivement les obligations grecques ? Ce sont les riches épargnants grecs et ce sont les banques. Comme il faut bien que quelqu'un paye le coût de la crise grecque, si ce ne sont pas ceux qui détiennent les obligations, ça veut dire qu'on déporte ce coût soit sur l'ensemble des salariés chômeurs grecs, l'ensemble de la population grecque, avec un effet social très négatif, soit sur les contribuables européens. Et donc, de fait, par ces choix qui peuvent apparaître techniques, hein, est-ce qu'on restructure, est-ce qu'on ne restructure pas, derrière, on protège des gens et on en cible d'autres.
Donc là, on vous dit, dans le cas grec, dans le cas irlandais, on a mis à contribution les contribuables européens, on a fait peser des mesures sociales sur les peuples irlandais et grecs, et en revanche, on n'a pas touché aux banques.
Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais entre ne rien faire du tout, qui est la ligne de la BCE, c'est-à-dire zéro contribution du secteur privé bancaire, zéro contribution des riches épargnants, puisqu'ils sont contre l'augmentation des impôts sur les plus riches, donc ils protègent en quelque sorte les riches et les banquiers, et comme il faut bien que quelqu'un paye le coût de la crise, il déporte ce coût vers l'ensemble des contribuables, et vers l'ensemble des salariés, fonctionnaires, retraités, demandeurs d'emploi. Je pense que la logique eût été de commencer par faire payer ceux qui avaient directement bénéficié d'avoir prêté de l'argent, parce qu'en échange de ce prêt, ils ont touché un intérêt. Et donc on est quand même dans une situation incroyable où des banques ont prêté avec un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, il incorpore un risque. Le jour où le risque arrive, ça doit être les premiers à payer. Et on est dans la situation complètement inverse.
Alors, ça, quand vous posez la question à Jean-Claude Trichet, mais pourquoi vous faites peser toutes les dettes sur les contribuables européens et sur les peuples, sur les salariés, et que vous ne mettez pas à contribution les banques, il vous répond quoi ?
Il répond que si on fait payer le système financier, on affaiblit les banques, et si on affaiblit les banques, on affaiblit l'ensemble de l'économie, et donc c'est contraire à l'intérêt général, et que finalement, ce qu'il pense, c'est qu'il vaut mieux affaiblir des petits que affaiblir des gros.
La Grèce est à l'arrêt.
BFM TV.
Plusieurs manifestations ont eu lieu dans la journée.
23 septembre 2011.
Qu'ils soient grévistes ou manifestants, tous protestent contre les nouvelles mesures d'austérité annoncées par le gouvernement grec, comme une baisse des pensions de retraite ou le licenciement de 30 000 fonctionnaires dans les transports publics ou l'éducation. Pour les Grecs, c'en est trop.
Cette mesure va laisser 150 000 familles sans travail alors que le chômage a déjà atteint ses limites. Elle est en train de détruire la Grèce.
Mais pour le Premier ministre, il s'agit de mesures indispensables pour redresser le pays et obtenir l'aide financière de l'Europe.
Nous savons que les choses sont difficiles, mais c'est la bataille la plus importante.
Georges Papandréou, Premier ministre grec.
Et nous la gagnerons tous ensemble, tout le peuple grec réuni.
Le peuple grec qui a pour l'instant du mal à être convaincu par une telle rigueur.
Clément Fontan, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Grenoble.
Le titre de ma thèse n'est pas très définitif. C'est transfert d'idées, de modèles politiques dans l'Union européenne, le cas de la Banque Centrale Européenne. Mais en fait, je vais m'intéresser de plus en plus à la relation entre la crise financière et la manière dont la Banque Centrale Européenne a gagné de l'influence politique depuis et pendant cette crise. À partir des conférences de presse mensuelles que Trichet donne tous les mois à Francfort, c'est les annonces de politique monétaire. C'est l'exercice de communication le plus important finalement pour la BCE. C'est le moment où tous les marchés suivent en direct l'annonce de Trichet, où selon les mots que dit Trichet, les taux de l'euro vont varier à la seconde près, etc., etc. Bon, ensuite, le discours de la BCE, c'est quelque chose de très rébarbatif, de très très répétitif, de très codé. Aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'adresse donc à des marchés financiers qui sont peureux, qui, dès qu'il y a un mot de travers, dès qu'il y a un mot qui peut suggérer une annonce de politique monétaire, etc., peut y avoir des variations de ouf sur ces marchés-là.
Pourquoi il ne s'adresse pas à moi, les Jean-Claude Trichet? Pourquoi ce n'est pas à moi qui parle? Pourquoi ce n'est pas à ma mère? Pourquoi ce n'est pas aux auditeurs de l'émission? Et pourquoi il s'adresse au marché?
Eh ben, si tu veux, je peux juste te lire la première phrase introductive qu'il y a dans tous les discours. Bon, c'est en anglais, je vais faire une. Based on its regular economic and monetary analysis, the Governing Council views the current key ECB interest rates as appropriate. Et en gros, quand Trichet dit que les taux d'intérêt de la BCE sont appropriés pour le moment, le fait qu'ils disent que ça soit approprié pour le moment, c'est une annonce qui dit que ces prochains mois, ça va être stable, on ne va pas bouger les taux d'intérêt. Mais s'il dit, par exemple, que les taux d'intérêt restent appropriés et pas sont appropriés, ça veut dire qu'il y aura peut-être un changement de politique monétaire dans 2 mois. Et en fait, c'est une annonce directe faite aux marchés financiers parce que c'est les marchés financiers, après, qui vont plus ou moins parier sur l'évolution des taux d'intérêt de la BCE.
C'est très très subtil quand même.
C'est extrêmement subtil. La disparition d'un mot dans la phrase introductive, ça peut signifier un changement de politique monétaire dans les 2 mois qui suivent. Et finalement, il y a des banques qui produisent des grilles d'analyse du discours de la BCE, qui en gros, voilà, c'est des grilles pour les traders. S'il y a ce mot-là qui apparaît dans la première phrase, ça veut dire qu'il y aura peut-être une modification du taux de change. S'il y a ce mot-là qui n'apparaît pas dans la troisième phrase, etc., etc. Donc finalement, on joue plus ou moins un rébus dans une langue quasi secrète, ultra codée.
Quoi d'autre?
Les banques, elles ont deux fonctions. Une fonction d'intermédiaire financier, puisqu'elles vont gérer pour toi des sommes. Elles ont aussi une activité dans les emprunts.
D'accord.
Donc elles touchent aussi un profit qui tient aux intérêts que tu leur reverses. Donc tous les intervenants sur le marché financier, ceux qui vont conseiller d'acheter, de vendre, les analystes financiers, les banquiers, etc., les gérants de SICA, tous, ont intérêt à ce qu'on achète. Parce que quand j'achète un titre, je sais que je le revendrai. Alors que quand j'ai vendu un titre, je l'ai vendu, je ne suis pas obligée de revenir dessus. Donc si j'ai donné un conseil à un individu d'acheter, je sais que plus tard, il revendra. Donc moi, j'aurai 2 commissions. Donc c'est comme ça qu'il y a un biais toujours à l'achat, à l'augmentation des prix. C'est parce que collectivement, tous les acteurs du marché financier, toute l'ingénierie financière, gagnent à ce qu'il y ait des gens qui achètent. Donc ça ne marche que quand il y a encore de l'argent frais qui peut arriver.
D'accord.
Parce que collectivement, tous les acteurs du marché financier, toute l'ingénierie financière, gagnent à ce qu'il y ait des gens qui achètent.
Chouette.
conférence de presse, press conference.
You are announced for the press
yes.
conference? Yes. Okay. So please come in here on the left side to my colleagues on the right. Okay.
Donc là, on rentre au 29 Kaiserstrasse. À Francfort, au siège de la BCE. Est-ce que je vous fais une remarque artistique?
Oui, je ne suis pas sûr de la première juge, mais...
Vous voyez ces tableaux?
Oui.
Regardez tous les tableaux qui nous entourent. Oui. Il y a trois tableaux, là, ouais. Il y en a d'autres. Est-ce que vous remarquez quelque chose?
Il n'y a personne dessus, c'est ça?
Voilà,
c'est pas d'humain.
Ce sont des formes abstraites. C'est toujours la peinture, ouais. Là, tandis qu'on est en train de déambuler dans les couloirs de la BCE, la peinture, c'est quand même généralement des hommes, avec le Caravage, avec Rembrandt, ils souffrent, ouais, ils pleurent, ils crient, ils se battent, ils pensent. Et là, toutes les peintures intérieures de la BCE, ce sont des peintures d'art abstrait, de petites tâches. Et c'est de la même manière sur nos billets de banque. Mm-hmm. Il n'y a pas d'hommes non plus sur nos billets de banque. Mm-hmm. On attend la conférence de presse de Jean-Claude Trichet au siège de la Banque Centrale Européenne à Francfort, où il va entre autres annoncer le taux directeur pour le mois à venir. Il paraît que le moindre mot de son speech introductif est pesé, qu'il y a des grilles de lecture, autant les étudiants et les lycéens étudient les textes de Verlaine et de Rimbaud. Il paraît que dans les salles de marché et dans toutes les banques, on étudie... Le tricher au mot à mot, oui, la syntaxe, le vocabulaire.
À la virgule près et à l'adjectif près, puisque l'adjectif, derrière chaque adjectif, il y a une nuance, une tonalité sur le taux d'intérêt, sur l'analyse de la situation, les gravités de la crise, etc. Donc chaque mot est sous-pesé avant qu'il ne soit prononcé.
Alors là, il y a un suspense dans les salles de marché pour savoir que va être le taux directeur.
Je commence à en croire à la Politburo de l'Union soviétique, Parti communiste de l'Union soviétique, quelques mois avant la fin de l'Union soviétique.
Pourquoi?
Parce que c'est la répétition d'un discours et d'un jargon, c'est déconnecté de la réalité.
C'est le même disque qui continue alors que le monde est en train de changer.
Ça, ouais. Toujours l'appel au fait que les réformes structurelles et la consolidation budgétaire vont créer des emplois et restaurer la confiance, alors que c'est exactement le contraire de ce qui est en train de se passer dans le monde réel. Tout le monde est en train de paniquer, y compris les marchés. Disons, la consolidation budgétaire partout en même temps, c'est l'austérité, et c'est impossible de réduire les déficits dans ce contexte.
Crise de l'euro, ça craint. Certains pays se demandent carrément s'ils ne vont pas revenir à leur ancienne monnaie. Comme ça, pour voir, nous avons tenté l'expérience chez nos voisins français.
Quoi? 26 francs à double passif? C'est 5 francs la baguette de pain? Mais c'est quoi cette arnaque?
À 10 francs le litre? Bon, tu, moi, je roule plus.
Qu'est-ce que cette merde?
Ah bah c'est vrai.
Finalement, après à peine une journée d'expérimentation, tout le monde a décidé de revenir à l'euro.
Et voilà, un double pastis. 4 euros, s'il vous plaît.
Bah oui. Rappelez-vous, c'était ça l'idée de départ de l'euro, un suppôt qui vous insensibilise le rond. Puis après, on peut se faire enculer pendant des années, on sent plus rien.
Et voilà, et pendant ce temps-là, M. Trichet parle... Et il parle pas dans le vide, parle pas dans le vide. Lui, il est suivi au mot près, à l'intonation près, et c'est très important pour tous, pour la planète entière, extrêmement important. Alors il se pourrait, comme on vient de l'entendre, que ce soit vraiment un monde qui soit hors sol, déconnecté des réalités sociales. Un monde en voie d'abolition. Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver en employant un tel langage? Question.
Alors, Pascal Canfin, on vient d'assister à la conférence de presse de Jean-Claude Trichet, qui continue derrière nous. On est sorti pendant la conférence de presse de Jean-Claude Trichet. Alors, je veux dire que j'ai pas compris grand-chose. D'abord parce que c'est en anglais, mais je suis pas sûr que si ça avait été en français, j'aurais beaucoup mieux compris. Et quand même, j'ai entendu qu'il continuait à prôner des structural reforms.
Ils nous ont mis un papier, donc il y a structural reform, il y a wage flexibilité, ils réclament de la flexibilité des salaires, elimination of the automatic wage indexation clause, donc l'élimination de l'indexation automatique des salaires, donc ça c'est ce qui existe encore en Belgique, ce qui est existé en France dans les années 80, strengthening of firm level agreements, ça veut dire qu'ils demandent que le contrat entreprise par entreprise, il prime sur des contrats nationaux ou sur des contrats de branche, ou que ça soit négocié directement entre l'employeur et le salarié, de manière à s'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise. Et ils prônent aussi dedans the privatization of services currently provided by the public sector, donc la privatisation du service public. C'est à la fois très technique, on comprend pas grand chose, et en même temps, c'est un vrai discours politique.
C'est un discours politique, c'est l'agenda néolibéral, et ce qui est extraordinaire, c'est que il faudrait quand même revenir à l'origine de la crise financière à laquelle la BCE essaye de répondre. C'est la crise des subprimes. Je ne vois pas en quoi le fait de flexibiliser le marché du travail, de casser les services publics, de faire en sorte que les accords d'entreprise prennent le pas sur le droit du travail, répond à aucun moment à la problématique qui a été la bulle immobilière américaine et par la financiarisation et l'interconnexion des marchés financiers, l'extension de cette crise financière à l'ensemble du système international. C'est vraiment un agenda totalement idéologique qui n'a aucun rapport avec les causes de la crise. C'est pas politiquement acceptable, c'est pas démocratiquement acceptable d'avoir une telle pensée unique à la tête de la BCE aujourd'hui et d'avoir aucun renouvellement, aucune critique du modèle qui nous a menés dans l'impasse.
Après le français Trichet, l'italien Draghi.
Euronews, 31 juillet 2011.
Les dirigeants des 27 ont désigné ce vendredi à Bruxelles l'actuel gouverneur de la Banque d'Italie à la présidence de la Banque Centrale Européenne. Le choix de la continuité, Mario Draghi partage les vues de Jean-Claude Trichet sur la politique monétaire et la crise grecque. Mario Draghi, 63 ans, a fait ses preuves comme vice-président et directeur exécutif de Goldman Sachs International de 2002 à 2005.
Là, on a eu le droit au discours libéral de la BCE, désindexation des salaires, flexibilité du marché du travail, contrat entreprise par entreprise, privatisation du service public. Mais tout ça va changer, puisque là, c'était l'avant-dernière conférence de presse de Jean-Claude Trichet. Dans deux mois, les clés sont remises à son successeur, qui est Mario Draghi. Ça va enfin changer.
Peu de chance que ça change, notamment parce que Mario Draghi, c'est aussi un ancien de Goldman Sachs. Il était vice-président de Goldman Sachs en charge des dettes souveraines pour l'ensemble de l'Europe. Et c'est là où il y a des problèmes, c'est qu'on sait que notamment Goldman Sachs en Grèce a contribué à maquiller les comptes de la Grèce. Et donc on se retrouve dans la situation un peu aberrante. On a quelqu'un qui a été chez Goldman Sachs, qui a vendu des services consistant à faire en sorte que les dettes puissent être en partie maquillées dans les comptes grâce à l'ingénierie financière dont Goldman Sachs a le secret, et qui se retrouve maintenant président de la BCE.
Mais alors lui, qu'est-ce qu'il dit quand on lui dit « Monsieur Draghi, vous allez être président de la Banque Centrale Européenne, pourtant vous étiez chez Goldman Sachs et c'est Goldman Sachs qui a maquillé les dettes de la Grèce ?»
Il répond « Je n'étais pas au courant, je ne me suis pas occupé des dettes souveraines. » Alors ce à quoi on lui dit « Moi, c'est votre parole, mais le seul écrit qu'on ait, c'est l'écrit de Goldman Sachs, l'entreprise elle-même, qui, lorsqu'elle embauche Mario Draghi, écrit explicitement « Il sera en charge des dettes souveraines ». Et donc, on ne peut pas imaginer qu'il ne soit pas au courant et partie prenante de ce que Goldman Sachs a fait en Grèce. C'est un écrit de Goldman Sachs lui-même. Alors, il nous oblige à croire une fable.
Donc c'est Goldman Sachs qui dit lui-même « On a embauché Mario Draghi pour s'occuper des dettes souveraines, donc des dettes souveraines en Italie, en Espagne, en France et aussi en Grèce ».
Voilà. Ça veut dire qu'il n'a rien dit, ça veut dire qu'il a cautionné, et que cette personne-là se retrouve aujourd'hui chef de la police alors que c'était un des acteurs des fraudes est un peu étrange. Ça veut dire qu'il est dans une dépendance incroyable à l'égard de Goldman Sachs qui pourrait à tout moment révéler le rôle qu'il a eu réellement dans le maquillage des comptes grecs. Et se dire que le président de la BCE est un organe indépendant, donc il n'a aucun compte à rendre serait quelqu'un soumis à une pression potentielle de Goldman Sachs parce qu'il n'aurait pas complètement dit la vérité au moment de son entrée en poste est quand même assez malsain.
Voilà, merci à tous. On continue demain. Ça a l'air de vous plaire. Cette ville de Francfort, capitale du capital. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à tous. Merci à Paul Mercier, à Pascal Canfin, à Clément Fontan. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez nous faire tous les commentaires que vous voulez. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Dophard Guéride, Bertrand Chometon et Franck Adhérère ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch, chef du répondeur, attend vos messages sur la boîte vocale de la basse, j'y suis, dont le numéro est 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Vous avez une belle boucherie, une chambre froide, deux rôtissoires à gaz, trois hachoirs électriques et, pour tout ce petit monde, une seule facture pour vos deux énergies. Pour vous, nous avons mis les bouchées doubles.
Appelez votre conseiller EDF Pro. Il vous proposera des offres d'électricité et de gaz naturel avec une seule facture pour simplifier la gestion de vos deux énergies. Plus d'informations sur EDF Pro au 0810 333 776. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Préfonds Retraite, vous connaissez ? C'est le numéro 1 de la retraite complémentaire facultative de la fonction publique. Aujourd'hui, nos experts vous conseillent au 30-25 pour vous préparer des revenus à vie sécurisés et bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Oui, vous ! En France, 10 millions de personnes peuvent en profiter. Appelez vite le 30-25.
Préfonds Retraite, complémentaire et nécessaire.
30-25, appel gratuit depuis un poste fixe.
France Inter, partenaire du festival MAMA, les 21 et 22 octobre. Le MAMA investit le cœur du 18e arrondissement de Paris. 48 heures de musique live, plus de 60 artistes français et internationaux. Avec Charles Bradley, Caravan Palace, Moriarty, The Bewitched Hands, Nadea, Gush. Retrouvez le festival MAMA dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
À demain, 15h, pour là-bas, si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Le couple de Français qui avait tenté de sortir clandestinement d'Ukraine, deux bébés nés d'une mère porteuse, a finalement pu les ramener en France en toute légalité. C'est ce qu'annonce aujourd'hui leur avocat. Cela s'est fait, dit-il, au mois d'août, mais il ne souhaitait pas en faire la publicité jusqu'ici. Les enfants ont donc obtenu la nationalité ukrainienne et pour entrer en France, les fillettes ont obtenu des visas Schengen d'un pays membre de l'Union européenne. On ne sait pas duquel il s'agit. La naissance des bébés via des mères porteuses est légale en Ukraine, mais ce type de contrat est interdit en France. Les enfants n'ayant pas de papier d'identité se retrouvaient donc apatrides. Leur père et leur grand-père français avaient été arrêtés à la frontière ukraino-hongroise en mars dernier. Les bébés étaient cachés dans les placards de leur camping-car. Amanda Knox est en route pour les États-Unis. Sitôt son acquittement prononcé hier par la justice italienne pour le meurtre de sa colocataire en 2007, l'étudiante américaine a donc pris l'avion aujourd'hui. Et ce, au grand désarroi de la famille de Meredith Kercher, nous n'avons toujours pas de réponse, a déclaré sa sœur. Des mots qui viennent en écho à ceux prononcés par le Premier ministre britannique aujourd'hui, David Cameron, dit plaindre la famille de la victime. En France, Total Raffinage devant la justice aujourd'hui. Le procès s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Total Raffinage comparaît pour le déversement accidentel de 500 tonnes de fioul dans l'estuaire de la Loire. Les faits concernent la raffinerie de Donges et remontent à 2008. En face de Total Raffinage, 22 parties civiles, dont de nombreuses associations de défense de l'environnement. L'aéroport d'Ajaccio, perturbé depuis ce matin par une grève surprise du personnel d'Air France. Il réclame la titularisation de 28 CDD. Contrairement à un jugement des prud'hommes cet été, la direction, elle, s'y refuse. De nombreux vols au départ et à l'arrivée d'Ajaccio ont donc subi aujourd'hui des retards jusqu'à 2h30. La France demande au Japon de renoncer à la chasse à la baleine. Il en va de la protection des cétacés, dit la France. Le ministre japonais de la Pêche a annoncé pourtant ce matin le lancement de la campagne annuelle de la chasse à la baleine dans l'Antarctique. Cissé et Mathieu, appelés en équipe de France de football, l'attaquant de la Lazio de Rome et le défenseur de Valence vont pallier donc les différents forfaits pour blessures auxquels Laurent Blanc, le sélectionneur des Bleus, doit faire face. Pour l'un donc, c'est un retour. Pour l'autre, c'est une première en équipe de France, Matteo Maestrachi.
C'est un retour pour Djibril Cissé, désormais attaquant de la Lazio de Rome après deux années au club grec du Panathinaikos qui avait participé à la Coupe du Monde 2010 mais n'avait pas été appelé depuis la nomination de Laurent Blanc. Buteur et performant avec le club italien, Cissé qui compte 40 sélections pour 9 buts en bleu profite du forfait de Benzema mais devrait s'asseoir sur le banc au coup d'envoi au profit de la titularisation de Loïc Rémy ou Bafé Gomis qui pour l'anecdote lui avait été préféré pour participer à l'Euro 2008. Défenseur du FC Valence, âgé de 27 ans, l'ex-sochalien et toulousain Jérémy Mathieu qui avait été approché cet été par Didier Deschamps pour remplacer Ainsu et Taiwo à l'OM. Évolue comme latéral gauche en Espagne, il compensera le probable forfait d'Eric Abidal. En équipe de France, il compte une sélection à A' en août 2007 contre la Slovaquie, mais n'a jamais porté le maillot DA.
Et le prochain match pour les Bleus, c'est vendredi contre l'Albanie, match comptant pour la qualification à l'Euro 2012. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Jeudi et vendredi, primaire socialiste, deux matinales spéciales. Les six candidats sur France Inter.
J'ai décidé de poser ma candidature.
Je suis candidat.
Je suis candidat.
À 72 heures du premier tour de la primaire socialiste, dernier grand rendez-vous des candidats en lice pour s'exprimer et s'opposer au micro de France Inter.
Je me suis préparé.
Jeudi.
Pour être devant les Français.
François Hollande, Manuel Valls, Arnaud Montebourg. Et vendredi.
Je suis déterminée.
Martine Aubry.
Et je suis prête.
Ségolène Royal, Jean-Michel Bellé.
Voilà le sens de mon engagement.
Primaire socialiste, les six candidats sur France Inter. À retrouver dans la matinale de Patrick Cohen, jeudi et vendredi, à partir de 7h. France Inter. La différence.
Et dans l'immédiat sur France Inter, c'est Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous. Une forme en musique peut contenir plusieurs intentions. Là, dans la valse en la mineure de Frédéric Chopin, on va pouvoir noter comme une douceur, comme une réserve aussi. Mais Georges Sand, sa compagne, a dit de Frédéric Chopin, jusque dans l'intimité, il se réserve et n'a de véritable épanchement qu'avec son piano. Valse en la mineure de Frédéric Chopin par Anne Kefelec comme une boîte à musique. assez près de s'arrêter et qui hésite parfois, hésite à continuer. Mais pourquoi vivre, effectivement? Quelquefois, on peut se poser la question. Et pourquoi y a-t-il une mélodie plutôt que rien? Ça, c'est une question que se posait, par exemple, Lévi-Strauss, qui aimait la musique, ce grand ethnologue et philosophe. Voici Khatchatourian maintenant, une autre valse, alors plus copieuse, plus charnue, je dirais. Elle est tirée d'une musique de scène, celle de Mascarade, et elle a été composée pour une pièce de Lermontov, une sorte d'adaptation de l'histoire d'Othello. Le héros est jaloux de son épouse, et au lieu de l'étouffer, là, il va l'empoisonner. C'est une musique qui peint un tableau clinquant de la haute société de Saint-Pétersbourg, mais en dessous, il y a des drames qui se jouent.